Bienvenue dans le magazine. On commence par le reportage du jour.
Le reportage du jour.
À la faculté de l'information et de la communication d'Alger 3, les étudiants se forment à reconnaître et combattre les fake news et autres formes de désinformation, y compris celles générées par l'intelligence artificielle. Samia Alloun nous plonge au cœur de cette formation essentielle pour préparer les journalistes de demain.
Suivre les dernières avancées technologiques et comprendre comment fonctionnent les nouveaux vecteurs de la communication. À l'ère du numérique, les étudiants en sciences de l'information et de la communication sont appelés à assimiler et à comprendre ces nouveaux défis à travers la théorie et la pratique. Dr Nawal Mebtouche, maître de conférence à l'université d'Alger 3, à la faculté des sciences de l'information et de la communication.
La technologie a beaucoup avancé dans ce domaine-là. On peut connaître et reconnaître la traçabilité de l'information depuis sa source, si c'est une information crédible et objective et de source sûre, ou bien c'est production d'IA ou d'autres. Donc nous avons besoin de ce rapprochement de spécialités, les informaticiens, les spécialistes en information, les journalistes aussi, pour faire face aux dangers qu'impose l'utilisation notamment de l'IA dans ce domaine.
Une transformation des méthodes et outils qui est suivie de très près par les étudiants pour connaître et assimiler les techniques clés pour détecter les fausses informations. Islam Boul Farah, étudiant au sein de la faculté de l'information et de la communication à l'université d'Alger 3.
Avec tous ces changements à l'ère du numérique, en tant qu'étudiant en journalisme, nous nous devons de suivre et d'étudier ces transformations, les analyser pour tenter de trouver les meilleurs outils à utiliser. Il est de notre devoir de rester toujours à jour avec l'actualité, en suivant les dernières informations sur cette révolution digitale qui a un impact sur notre spécialité.
Une prise de conscience progressive de la part des étudiants, les futurs professionnels des médias cherchent à comprendre l'origine de l'information et la crédibilité du contenu afin d'éviter de relayer à leur tour des informations erronées. Sheima Hafsi, étudiante en première année master à l'université d'Alger 3.
Il y a plusieurs façons pour se prémunir des fake news. Chacun utilise une technique différente. Certains le font avant même de commencer à rédiger l'article, en vérifiant l'authenticité de l'information et en comparant les versions de l'information proposées par différents médias pour être sûr de sa véracité. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, de plus en plus d'étudiants prennent conscience du danger des fake news.
Des étudiants formés progressivement à comment mieux faire face à ces phénomènes liés à la désinformation et fausses informations à travers la vérification des faits ou encore la recherche inversée pour mieux distinguer le vrai du faux.
C'était le reportage du jour avec Sami Alloun. On passe tout de suite au journal économique avec Nabila Hussein.
Économie.
On commence par l'actualité africaine. Alger abrite depuis hier un forum consacré aux systèmes fiscaux africains avec la participation de plusieurs pays et organismes régionaux.
Oui, du 3 au 7 novembre, ce forum vise à harmoniser les lois fiscales et renforcer la coopération entre administrations du continent. L'enjeu économique est majeur, améliorer la collecte des impôts, lutter contre l'évasion fiscale et augmenter les ressources internes des États africains. Pour l'Algérie, c'est une opportunité de mettre en avant son modèle de digitalisation et de modernisation des impôts, avec à terme davantage de recettes fiscales et moins de dépenses aux revenus pétroliers.
Et justement, au Qatar, l'Algérie est représenté au plus haut niveau lors du deuxième sommet mondial pour le développement social.
C'est Azouz Nasri, président du Conseil de la Nation, qui représente l'Algérie à ce sommet international. Il est accompagné par le ministre du Travail, Abdelhak Seyhi, et une délégation importante. Les travaux portent sur la réduction des inégalités, la protection sociale et les politiques d'emploi. Sur le plan économique, ces rencontres sont stratégiques. Elles peuvent permettre à l'Algérie de renforcer ses partenariats, d'attirer des financements dédiés à l'emploi et de faire avancer les réformes liées au travail et à la sécurité sociale. Le sommet devrait donner une nouvelle impulsion à la concrétisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030.
Et dans la finance, Nabila, une annonce importante du HCI, la finance islamique continue de prendre de l'ampleur en Algérie.
Le Haut Conseil islamique annonce que la finance islamique en Algérie a déjà permis de lever plus de 900 milliards de dinars, soit environ 6 milliards de dollars. Une partie importante de ces fonds a été injectée dans les banques publiques et dans l'économie réelle. C'est un signal fort. La finance islamique attire l'épargne nationale, surtout celle qui était jusque-là en dehors du circuit bancaire. Plus de liquidités, c'est plus de crédit pour les entreprises, donc plus d'investissements et plus d'emplois. Ce chiffre pourrait atteindre ou dépasser les 1000 milliards avant la fin 2026, selon Sofiane Mazar, banquier et spécialiste de la finance islamique.
En termes de dépôts, actuellement, nous avons dépassé même les 900 milliards de dinars de dépôts et on s'attend à ce que au milieu de l'année 2026, au plus tard à la fin de l'année 2026, on dépasserait même les 1000 milliards de dinars donc de dépôts collectés par les banques qui offrent des produits de finance islamique.
Et on termine avec le secteur énergétique. Les marchés pétroliers réagissent aux dernières décisions de l'OPEP+.
Les cours du pétrole se sont légèrement redressés après que l'OPEP+ a annoncé, vous le savez, la suspension des hausses de production prévues pour le premier trimestre 2026. Le Brent s'échange autour de 65 dollars le baril, tandis que le WTI américain tourne autour de 61 dollars. Cette décision vise à éviter un surplus d'offres sur le marché dans un contexte où la demande mondiale reste incertaine.
C'était l'essentiel de l'actualité économique avec Nabila Hussein. On continue ce magazine dans quelques instants avec plus d'actualité. Mais pour l'heure, on vous laisse en musique avec Long Train Running de Ben Reiner.
You gotta keep on pushing my mind, 'cause you know they're running late. Found love, found love, found love. Where would you be now, 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 now? Friend.
De la musique pour vous accompagner dans ce magazine et de l'actualité, on passe tout de suite à l'instant santé.
L'instant santé avec Hassan Chemesh.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Et on s'intéresse aujourd'hui au fibrome, une tumeur bénigne de l'utérus qui touche de nombreuses femmes. Quelles en sont les causes et comment le traiter? Hassan Chemesh nous apporte toutes les réponses dans cet entretien.
Professeur Mestour, bonjour.
Bonjour, monsieur Hassan Chemesh.
Vous êtes chef de service gynécologie au CHU Nafisa Ahmed d'Exparné. Professeur, de plus en plus de femmes aujourd'hui souffrent de ce qu'on appelle les fibromes. Qu'est-ce que c'est qu'un fibrome?
Effectivement, c'est une pathologie qui est très fréquente. Le fibrome, c'est une tumeur bénigne, ce n'est pas un cancer, et se transforme en cancer exceptionnellement. Cette tumeur, elle se développe à partir du muscle de l'utérus. C'est une affection qui est très fréquente, effectivement.
Vous l'avez constaté, de plus en plus de femmes vous sollicitent dans votre service, dites-nous.
Oui, oui, oui. Puis je dirais que une femme sur deux, 50% des patientes au-delà de 30 ans ont des fibromes. Heureusement, ces fibromes, dans les deux tiers des cas, ils sont asymptomatiques. Souvent, on les découvre lors d'une échographie. Mais il n'y a qu'un tiers, uniquement un tiers, des patientes qui vont présenter des symptômes.
Quels sont ces symptômes, professeur?
Les symptômes sont nombreux, essentiellement, c'est la douleur pelvienne, la fameuse sondée douleur. Parfois, il y a des signes de compression, le fibrome exerce une compression sur la vessie et sur le rectum, donc ça se manifeste par une polacurie, une femme qui va aux toilettes fréquemment, ou bien lorsque la compression elle est sur le côlon, donc ça donne sur le rectum, donc ça donne des constipations, donc des signes compressifs et la douleur. L'infertilité, rarement le fibrome est source d'infertilité, mais il peut être dans des infertilités. Et le maître symptôme essentiellement, c'est des saignements utérins anormaux. C'est ça les motifs de consultation les plus fréquents. Et parfois, c'est juste lors d'un examen échographique qu'on découvre qu'il y a un fibrome qui est asymptomatique.
Comment traiter ces fibromes?
Donc la prise en charge de ces fibromes, étant donné que les deux tiers des fibromes sont asymptomatiques, donc les deux tiers des fibromes, on ne les touche pas. On va juste les surveiller, surveiller l'évolution de ces fibromes, comment ils vont évoluer par la suite. Il y a uniquement un tiers des fibromes qui sont pris en charge médicalement et chirurgicalement. Il y a des fibromes qui sont pris en charge d'emblée chirurgicalement. C'est des fibromes qui sont situés dans la lumière de la cavité utérine. Parce que ces fibromes-là sont symptomatiques, donnent des saignements. Si ça ne donne pas des saignements, ça va donner dans quelques temps des saignements. C'est pour ça, ces fibromes-là, on doit les opérer. Et pour le reste, on les opère après échec à un traitement médical. Une femme qui saigne, on lui donne un traitement. Par palier, on donne au début un traitement hormonal simple, puis on augmente, on donne des analogènes, sans rentrer dans les détails. Si échec à un traitement bien conduit, à ce moment-là, la prise en charge est chirurgicale. Et cette chirurgie, c'est enlever les fibromes chez la femme qui désire encore garder son utérus, qui n'a pas encore fini son projet de grossesse, chez la femme qui est un petit peu âgée, qui a des enfants, qui a fini son projet de grossesse, on peut faire une hystérectomie. C'est-à-dire enlever l'utérus et le fibrome avec. Donc voilà, sur le plan de la prise en charge...
Est-ce qu'on peut éviter la chirurgie, professeur? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives?
Oui, des alternatives, il y en a. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'embolisation. Ça veut dire qu'il faut aller au niveau des vaisseaux qui nourrissent ces fibromes, c'est l'utérus. On va créer une embolisation et le fibrome va régresser. C'est une technique effectuée par nos confrères radiologues. C'est la chirurgie intervention. C'est la radio interventionnelle.
Et on la pratique chez nous?
On la pratique, oui. Certains centres d'imagerie font ça. Et c'est préconisé, c'est pas conseillé chez la femme qui désire encore faire des enfants. Et puis, il y a d'autres alternatives qu'on dispose pas ici en Algérie, malheureusement, telles que la radiofréquence et les ultrasons focalisés. Ça veut dire, on utilise d'autres énergies qui donnent sous contrôle échographique et on va détruire ce fibrome. C'est vraiment des alternatives à la chirurgie.
Parfait. Donc, professeur, pour terminer, donc, c'est des fibromes qui viennent, c'est hormonal, on peut dire, c'est hormonal.
Oui, bon, sur le plan des causes, il y a plusieurs facteurs de risque. Nous, on dit dans notre jargon médical, la femme qui ne fait pas d'enfants, elle fait des fibromes à la place. Donc déjà, un facteur protecteur, faire des grossesses, c'est un facteur
protecteur.
Autrement, globalement, il y a le facteur génétique, il y a également le facteur hormonal, et c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente chez la population d'ascendance africaine.
Professeur, je te remercie beaucoup.
Merci.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
La suite du programme du magazine en musique avant de nous retrouver pour d'autres actualités.
Bye.
On continue ce magazine avec l'actualité internationale. Zoom sur le monde.
Zoom sur le monde.
Et Mariam Abdo reçoit Hassan Rassam pour observateur politique iranien pour analyser les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui juge déraisonnables les conditions posées par les États-Unis pour la reprise des pourparlers.
Téhéran aurait reçu, selon la porte-parole du gouvernement iranien, un message de Washington demandant la reprise des négociations. De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bagheri, a exclu tout processus de négociation actuel avec les États-Unis. Avec nous en ligne, Monsieur Hassan Cholesadi, merci d'accepter notre invitation. Est-ce que l'Iran doit aujourd'hui parler de négociations avec Washington, Monsieur Hassan Cholesadi?
Je crois qu'il ne va pas quelque chose parce que l'Iran est entouré de plusieurs pays ayant les forces nucléaires comme le Pakistan, comme la Russie, comme la Turquie en tant que membre de l'OTAN avec quelques distances avec Israël.
C'est ça.
Donc, pour l'Iran, on a besoin d'une force dissuasive. Pour cela, les demandes américaines, à mon avis, est une demande qui est non seulement illogique, mais qui est contre notre sécurité nationale, qui est en quelque sorte une menace existentielle pour l'Iran. En même temps, les Américains ont menacé l'Iran en envoyant un message aux autorités irakiennes, comme quoi on a dit que bientôt il y aura une grande guerre dans la région et vous ne devez pas intervenir dans cela.
Monsieur Hassan Cholesadi, dans le même temps, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a confirmé qu'il y avait eu un échange de messages via des intermédiaires entre les États-Unis d'une part et l'Iran d'autre part. Qu'est-ce que cet échange pourrait avoir comme valeur ajoutée, l'on va dire?
Je crois que dans la situation actuelle, il n'a rien abouti parce que, comme je viens de dire, les demandes américaines ne sont pas logiques et qui touchent directement la sécurité nationale de l'Iran. Donc, l'Iran pour avoir une force de dissuasion parce que les demandes américaines ne se limitent pas à la question nucléaire seulement.
Oui.
Parce qu'ils demandent de ne pas intervenir dans la région. D'autre part, il y a une autre question essentielle, plus essentielle, d'établir un nouveau ordre international. Surtout après arriver au pouvoir de M. Trump à la Maison-Blanche. Je crois qu'il n'y a pas besoin de négocier parce que déjà on a bien éclairé quelles sont les demandes américaines parce qu'ils touchent directement l'existence même de l'Iran. Oui, c'est pour cela que les autorités iraniennes absolument ne peuvent pas accepter une telle négociation.
Il convient de noter tout de même que les parties iraniennes et américaines ont tenu jusqu'à présent 5 cycles de pourparlers indirects sur la question nucléaire notamment. Monsieur Hassan Cholesadi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie.
Hassan Cholesadi est observateur politique iranien.
Zoom sur le monde.
La suite en musique avec Jamal Arousi, Kifash Hilti.
Kifash Hilti, Anasi, Ushuhu, Amali. واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا
كيفاش حيرتي يا ناسي وشهو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا
خليك يا نايم وعلاش تلومني بحالي لطلي عالغرامي تبكي على بكايا I'm
سلطان الهوى أمدني وعزم على قتالي سلسيك ودعاني طعت وآسد بيا بسيوك ماضية ومزارك ومحاد حقلي ميلي لنسلم وانطيع كيف عفا عليا
كيفاش حيثي يا ناسي وشهو عمالي واللي نعيدلو يستغرب بما صار بيا
Du magazine avec Le Point Route, c'est dans quelques instants.
L'inforoute.
Au 021 48 15 15, vous pouvez nous contacter pour nous informer de l'état de la circulation à travers toutes les wilayas.
Thank you. keep my hands on myself.
Le premier auditeur du Point Info Trafic, Eder, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va, Ivo?
Ça va très bien. Alors, vous êtes à quel niveau?
Là, je vais rentrer dans le tunnel de Birtouta. D'ailleurs, je dois mettre à côté pour que ça se coupe pas.
Oui.
Sinon, ça, je vais vous perdre. Alors, je...
vous êtes en Bluetooth, j'espère.
Franchement, non.
D'accord, ok. Alors, faites attention. Mettez-vous sur le bas-côté. On prend toutes nos précautions.
Je suis sur la bande d'urgence, donc espérons que...
C'est parfait, Eder. C'est parfait. Alors, vous avez démarré de Birtouta.
Non, j'ai démarré de Sidi Abdallah.
Sidi Abdallah, très bien.
Voilà, j'ai traversé, bien sûr, Rahmania, Douira, Bab Hassan, Saoula, Khraïsia. Là, j'arrive justement dans le tunnel de Birtouta.
C'était plutôt fluide ou ça bloquait un peu?
C'était fluide. Non, très très fluide. Le problème, il y a quelques mauvais conducteurs, malheureusement, qui créent les emboutillages.
Et c'est un fléau en ce moment, les mauvais conducteurs.
Les mauvais conducteurs, ils s'arrêtent n'importe où, n'importe comment. Et puis, des fois, surtout, je passe un message à nos auditeurs, à nos citoyens, à nos conducteurs, à travers vos ondes, si vous le permettez.
Allez-y, Eder, oui.
Il y a des gens, quand ils mettent le clignoteur pour eux, soit tourner à gauche ou à droite, tout de suite, ils rabattent. C'est faux, le clignoteur, c'est pas une priorité.
C'est pour ça qu'il faut bien surveiller les comportements des autres automobilistes, parce que c'est malheureusement catastrophique, voilà.
Et il faut conduire pour les autres.
Exactement, voilà. Bien se concentrer en tout cas.
Exactement.
En tout cas, merci Eder de nous avoir informé de l'état de la circulation et bon retour chez vous.
Et nous vous remercions pour ce que vous faites.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. On continue, peut-être un appel, le dernier au 021 48 15 15. On reviendra dans quelques instants pour la suite de l'actualité. Et nous continuons ce magazine avec la deuxième partie. Ce sera dans quelques instants et nous parlerons de sport avec l'équipe de la sportive. Il y aura également l'actualité culturelle avec la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran qui bat son plein avec 63 films programmés, des ateliers de talent et Oran qui devient la scène du cinéma arabe sous toutes ses formes. Il y aura également la rubrique TIC avec les nouvelles technologies au programme et c'est dans quelques instants. Tout ça accompagné bien sûr de musique, c'est jusqu'à 19h.
Alger Chin 3, 24 heures sur 24.
صلاتي جات قائما النبي وصحاب عشرة والنبي صحاب عشرة زين البشرى يا شفيعنا يوم العسرة يا حبيبي طاغى يا شربة من حوضك نبرة وانك قيس عمال التبرات
Il est 18h. On retrouve Sofiane Saouli pour le sommaire. Bonsoir Sofiane.
Leïla Djibril, bonsoir. Bonsoir à tous. Au sommaire du 19h, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jayhun Bayravov, et la délégation l'accompagnant. La vision stratégique de l'Algérie pour une justice sociale dans le pays, soulignée par le président de la République au sommet mondial pour le développement social à Doha, Abdelmadjid Tebboune a rappelé son soutien au droit des peuples à l'autodétermination. Le président du Conseil de la Nation le représente à ce sommet. Les pays africains appelés à unir leurs efforts pour atteindre l'efficacité de leurs administrations fiscales et lutter ainsi contre la fraude. Le ministre des Finances s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture du Forum africain des administrations fiscales à Alger. Une quarantaine de pays participent. Depuis Betna, où il a installé le nouveau wali, le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïd, a appelé les walis de la République et les élus locaux à se mettre à l'écoute des préoccupations citoyennes et y répondre, notamment au niveau des APC. La dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara occidental laisse la porte ouverte aux propositions des parties concernées, a affirmé le conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines. Massad Boulos a précisé que la MINURSO a été créée pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. La situation sécuritaire s'aggrave au Mali. Les taux se resserrent sur Bamako par les groupes terroristes. L'armée peine à lever le blocus sur le carburant. À Raza, l'entité sioniste continue ses exactions et interdiction d'entrée d'aide alimentaire. La population dans le désarroi alors que la résistance honore ses engagements. L'apport de l'émir Abdelkader à la civilisation de l'Algérie, le directeur du centre culturel de la mosquée d'Alger, s'est exprimé lors d'un colloque tenu en marge du Salon international du livre d'Alger. Et à 18h02, l'heure de prendre connaissance des prévisions météo. C'est avec vous, Leïla Djibril.
Les prévisions pour la nuit sur les régions nord, littoral, intérieur, au plateau et les Aurès. Le ciel sera généralement dégagé, à peu nuageux, avec quelques passages par endroits. Les vents souffleront de secteur est, atteignant parfois 40 km/h près des côtes et 30 km/h sur l'intérieur. Dans les régions sahariennes, le temps restera globalement dégagé. Sur le nord Sahara, les vents de nord-est souffleront entre 20 et 30 km/h. Ils atteindront parfois 40 km/h sur le Sahara central et le sud des oasis, provoquant localement quelques soulèvements de sable. Plus au sud, vers Tamanrasset, les vents de sud-est seront plus faibles de 15 à 25 km/h. Les températures pour ce soir, il fera 14 degrés à Alger et à Oran, 15 degrés à Chlef et Djidjel, 14 degrés à Tlemcen, 8 à Betna, 9 degrés à Constantine, 15 degrés à Béjaïa, 13 degrés à Tizi Ouzou, 11 degrés à Annaba, 19 à Ngzem, 16 degrés à Djanet, 13 degrés à Abou Saada, 18 degrés à Ourgla et Hassim Saoud et 23 degrés à Borj Badji Mokhtar.
Thank you.
respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. And dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes,
bienvenue dans la deuxième partie du magazine. On commence avec de l'actualité sportive en compagnie de Nassima Djaout. Bonsoir.
Bonsoir Leïla.
On entame cette actualité sportive avec le football et les clubs algériens engagés en Ligue des Champions, la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, en Coupe de la CAF, l'USMA et le CRB qui connaissent le calendrier de leurs matchs en phase des groupes.
Tout à fait cela. On va commencer par la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions continentales. Le Mouloudia d'Alger entamera la phase des groupes en déplacement face au Hilal du Soudan. Cette première journée est prévue les 21, 22 ou 23 novembre avant de recevoir lors de la deuxième journée qui est prévue 28, 29 ou 30 novembre. Le Mouloudia d'Alger va recevoir Mamelodi Sundowns. C'est un match qui sera très particulier puisque l'actuel entraîneur du Mouloudia d'Alger, monsieur Mokoena, retrouvera son ancienne équipe. Il est sud-africain, il va retrouver son ancienne équipe, les Mamelodi Sundowns. Et puis, on ne va pas vous donner tout le programme, mais sachez que lors de la sixième et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions, qui est prévue le 13, 14 ou 15 février 2026, bien sûr, le Mouloudia d'Alger sera en déplacement en Afrique du Sud pour y affronter Mamelodi Sundowns. Alors ça, c'était pour le Mouloudia d'Alger, toujours en Ligue des Champions, le calendrier de la JSK lors de cette phase des groupes. Alors, lors de la première journée, la JSK va avoir un gros morceau. le géant d'Afrique, on peut le dire, Al Ahly d'Égypte. La JSK va se déplacer en Égypte pour affronter Al Ahly, toujours le 21, 22, 23 novembre. Deuxième journée, la JSK va accueillir les Young Africans de Tanzanie. Et puis lors de la dernière journée qui est prévue en février 2026, la JSK se déplacera en Tanzanie pour y affronter les Young Africans. Pour la Coupe de la CAF, l'USMAG affrontera San Pedro de la Côte d'Ivoire et le Chabab de Blouzdad lors de la première journée. Toujours prévue 21, 22, 23 novembre, le Chabab de Blouzdad sera opposé lors de la première journée donc de la phase des groupes, la phase des groupes de la Coupe de la CAF, Singida Black Stars, donc au menu de la première journée. Ça sera également le 22, 23 novembre, selon le calendrier dévoilé par la CAF à l'issue du tirage au sort qui a été effectué hier. Le détenteur de la Coupe d'Algérie 2025, versé dans le groupe A, enchaînera en déplacement contre l'Olympique Safi pour le compte de la deuxième journée, prévue le 30 novembre, avant de boucler la phase aller en recevant les Maliens de Djoliba. Ce sera le 25 janvier 2026. Le CRB, lui, a hérité, je rappelle, du groupe de C, se déplacera lors de la deuxième journée au Congo pour croiser le fer avec la formation de l'AS Otoho avant d'accueillir les Sud-Africains de Stellenbosch lors de la troisième journée. Les deux premiers de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale. Et ça, ce sont les compétitions continentales pour les quatre équipes algériennes engagées en coupe, en Ligue des Champions et Coupe de la CAF.
Alors, on passe au basketball, Nassima, ou au football à l'étranger?
Exactement,
continue avec le football, mais on va à l'étranger. Avec la quatrième journée de la Ligue des Champions d'Europe.
Allez, quatrième journée de la Ligue des Champions d'Europe avec à 18h45 une belle rencontre. Les Italiens de Naples qui accueilleront les Allemands d'Eintracht Francfort. Il y aura également à partir de 21h de très très belles affiches. Le PSG qui reçoit le Bayern de Munich. Ça, c'est vraiment un match à couteau tiré. Oui. Liverpool qui accueillera l'équipe espagnole du Real de Madrid. Rien que cela. Ça va être de très très belles affiches. Sinon, la Juventus de Turin, l'équipe italienne, rencontrera les Portugais du Sporting du Portugal. Et également, l'Atlético de Madrid rencontrera les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Et puis, l'Olympiakos, l'équipe grecque, rencontrera les Néerlandais du PSV Eindhoven. Ça, c'est pour la soirée d'aujourd'hui. La soirée de demain nous offrira encore d'autres superbes affiches à l'image de l'Olympique de Marseille. Demain, qui affrontera l'Atalanta Bergame, Manchester City contre Dortmund, Newcastle contre l'Athletic Bilbao et Benfica du Portugal contre le Bayern Leverkusen. Ça sera pour demain, mais pour ce soir, à retenir: PSG, Bayern de Munich, Liverpool, Real de Madrid, Naples, Eintracht de Francfort.
Très belles affiches pour ce soir. Et on passe au basketball avec la sélection nationale qui entamera un stage le 22 novembre courant. Le sélectionneur national Ali Bouzyen a convoqué les joueurs locaux.
Trois mois après le sacre arabe remporté par la sélection nationale au dernier championnat arabe des nations qui s'est déroulé au Bahreïn, la sélection nationale entame un stage du 22 au 27 novembre courant à Alger, dédié uniquement aux joueurs locaux évoluant dans le championnat national. Ali Bouzyen parle des objectifs de ce stage de préparation, comment les joueurs convoqués ont été choisis, ainsi que les visions et perspectives du sélectionneur Ali Bouzyen pour à court et à long terme dans cet entretien réalisé par Rostom Yahya Chrif.
Le sélectionneur national de basketball 5 contre 5, monsieur Ali Bouzyen, bonjour.
Bonjour.
Alors Ali Bouzyen, sélectionneur national, trois mois après le titre arabe, c'était le mois d'août dernier au Bahreïn, où la sélection nationale avait survolé la compétition, 6 matchs, 6 victoires. Trois mois après, la sélection nationale sera en stage, ça sera du 22 au 27 novembre. Coach, première question, ce stage s'inscrit dans quelle optique? La continuité du projet ou remise à niveau après une pause de trois mois?
Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire, et même trois, dans le sens où on va aussi évaluer de nouveaux joueurs. En fait, le stage a deux axes. Le premier, c'est effectivement ancrer le projet de jeu, continuer à travailler, non simplement l'ancrer, mais le développer avec les joueurs qui étaient présents l'été dernier dans la sélection. Et le deuxième axe, c'est évaluer, tester, observer les joueurs qui sont actuellement dans le championnat local, parce que les binationaux ne seront pas convoqués, parce qu'il n'y aura pas de matchs amicaux, il n'y aura pas de compétition. C'est vraiment un stage qui est réservé aux joueurs locaux, en vue des prochains regroupements, et notamment du regroupement de l'été prochain.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le programme de travail prévu durant ce stage?
C'est un regroupement qui est très court, 5 jours, donc du 22 au 27 novembre, on fera des entraînements bi-quotidiens où on va essayer de concentrer les contenus qu'on aurait fait normalement sur un mois et demi pendant un été en 5 jours. Donc vraiment, c'est aborder certains thèmes, certains contenus techniques, tactiques. Puis on va faire un petit match entre nous aussi, un petit scrimmage, comme on appelle dans le jargon basket, un petit match puisqu'il y aura une sélection de 18 joueurs. Donc, il me semble 8 joueurs qui seront testés, qui intégreront le groupe pendant ce regroupement pour évaluer les joueurs sur de la compétition.
Coach, depuis le dernier championnat arabe, seulement un mois et demi, 2 mois après votre début avec la sélection nationale, une équipe jeune, une équipe rajeunie, moins de 23 ans, qui avait battu les meilleures équipes arabes, la Tunisie championne d'Afrique en titre, l'Égypte championne arabe en titre également. Est-ce que vous, sur ces 3 mois après, est-ce que vous avez suivi les performances des joueurs qui seront une nouvelle fois convoqués, puisque, je le rappelle, 90% de l'équipe championne arabe était composée des joueurs locaux. Donc, est-ce que vous les suivez, vous suivez leurs performances?
Ouais, c'est ça, 80%, 90% de l'équipe était composée par des joueurs locaux, effectivement, plutôt la plupart des très jeunes joueurs. Le championnat algérien a franchi un grand cap, merci à la fédération et au président. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui me permettent de suivre les équipes, les joueurs. Donc ça, c'est quand même une grande avancée. C'est même, j'ai envie de dire, une révolution pour le basket algérien. Donc je suis en contact régulier avec mon assistant, Reza Hachmi, aussi avec le président. Voilà, on échange sur les joueurs, sur les performances des joueurs, sur les nouveaux, sur ce qui était pendant avec la sélection cet été. Je sais exactement ce qui se passe. J'espère une prochaine étape dans le développement du championnat, c'est la vidéo. Avoir accès aux matchs en vidéo avec des systèmes maintenant qui existent dans tous les championnats, c'est-à-dire que des caméras qui sont fixes et fixées au plafond, enfin, ou dans les tribunes, qui peuvent et qui suivent le match en direct. J'espère qu'on y arrivera. Ça me permettra de voir non simplement les chiffres, les statistiques, les datas, mais aussi, surtout, d'avoir une observation directe et factuelle de ce qui se passe sur le terrain.
Vous avez découvert de nouveaux joueurs grâce aux statistiques, coach, du championnat?
Oui, bien sûr, grâce aux stats. Mais les stats, c'est pas tout, attention, parce que si on devait se fier qu'aux statistiques, tout le monde pourrait être sélectionneur national. Le plus dur, c'est de contextualiser les statistiques à un niveau international. Parce que il peut y avoir des joueurs qui ont des très très bonnes statistiques dans le championnat algérien, mais leur profil, de notre point de vue, nous staff, n'est pas transférable sur une scène internationale, pour des raisons peut-être physiques, pour des raisons peut-être tactiques, pour des raisons de complémentarité, tout simplement, et vice-versa. Il peut y avoir des joueurs qui ont des statistiques très moyennes dans le championnat algérien, mais qui peuvent briller sur la scène internationale. On l'a vu un peu cet été avec un joueur comme Sami de Stawali, qui ne jouait pas du tout avec Stawali la saison passée, et qui a fait un championnat arabe plutôt cohérent. Donc il n'y a pas que les statistiques, mais par contre les stats peuvent nous donner des informations qui nous permettent d'approfondir. Voilà. Après, réellement, c'est plutôt mon staff, et notamment Reda, qui m'oriente sur les joueurs qui ne sont pas présents dans les statistiques.
Ali Bouzian, sélectionneur national de basketball, merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir, merci Rostom, et toujours un plaisir d'intervenir sur votre chaîne.
C'était le sélectionneur national de basketball, Ali Bouzian, avec Rostom Yahya Chérif. Et en parlant de basketball, une dernière information.
Oui, allez-y, Nassima, avant de finir.
La sélection algérienne de basket, 3x3, messieurs et dames, sont désormais fixés sur leurs adversaires à la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique prévue du 7, c'est pour bientôt, au 21 novembre à Riyad en Arabie Saoudite. La sélection algérienne masculine de basketball 3x3 a été versée dans le groupe A aux côtés de l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, alors que le groupe B, où figurent les dames, est l'Algérie, donc composée de l'Égypte, du Qatar et de l'Iran. Les rencontres du tournoi de basketball 3x3 auront lieu les 16, 17 et 18 novembre. L'Algérie sera représentée à la 6e édition des Jeux islamiques de la solidarité par une délégation composée de 117 athlètes répartis sur 16 disciplines. La participation algérienne couvrira un large éventail de sports individuels et collectifs. L'athlétisme avec 8 athlètes, le basketball 3x3, donc 2 équipes, la boxe avec 7 athlètes, le duathlon avec 3 athlètes, il y aura le karaté avec 6 athlètes, il y aura également le taekwondo, la natation avec 24 nageurs et nageuses, la lutte, l'haltérophilie avec 10 athlètes, la lutte avec 9 athlètes. Il y aura également d'autres disciplines moins connues. Le judo avec 7 athlètes, je l'avais dit. Le Muay Thai. Et le tennis de table, ça, on connaît. On et puis connaît, le oui. Wushu, voilà, 3 athlètes. Donc, il y aura également 2 disciplines paralympiques seront également de la partie. L'Algérie sera présente en athlétisme et le handicap. Les athlètes en situation de handicap et le para-haltérophilie. Donc, l'athlétisme et le para-haltérophilie. Ouais. On va les suivre, nos athlètes au jeu de la solidarité islamique avec un énorme plaisir.
Et merci Nassima Djaout pour l'essentiel de l'actualité sportive. On vous retrouvera dans le journal de 19h en compagnie de Sofiane Saouli. Et nous, on continue ce magazine en musique avant de retrouver le reste de l'actualité. Un classique, Billie Jean avec Michael Jackson. Bienvenue dans la deuxième partie du magazine. Si vous venez de nous rejoindre, on passe au correspondant du jour.
Le correspondant du jour.
Abdelhamid Zoued nous emmène dans la ville de Djijel où les récents intempéries ont fortement endommagé certaines routes. Des travaux de réhabilitation sont en cours pour sécuriser la circulation et protéger les habitants.
Une opération de réparation des dégâts causés au réseau routier de la wilaya de Djijel lors des intempéries de 2023 et 2024 a bénéficié d'une enveloppe de l'ordre de 20 milliards de dinars. Le wali de Djijel, Ahmed de Meghellati, a indiqué que cette enveloppe a été octroyée par le secteur des travaux publics pour la prise en charge des dégâts qui ont impacté des tronçons routiers ainsi que des glissements de terrain. Cette enveloppe financière importante représente quelque chose comme 40% des crédits alloués au secteur des travaux publics. Elle reflète l'ampleur des dégâts subis par les voies de communication en raison des intempéries. Les routes nationales et les chemins de wilaya qui n'ont pas été épargnés par ces intempéries sont concernés par ce programme de prise en charge pour leur traitement, a affirmé le chef de l'exécutif. S'agissant des chemins communaux, eux aussi victimes de ces intempéries, leur prise en charge nécessite une enveloppe d'environ 4 milliards de dinars pour réaliser 66 opérations. Concernant 27 communes, à dégager par les ministères des Finances et des Travaux publics et des infrastructures de base. Il s'agit là d'un projet ambitieux dans la mesure où, une fois exécuté sur le terrain, permettra de mettre à niveau le réseau routier et d'être au diapason de l'activité socio-économique de la région. Djijel, Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3.
C'était le correspondant du jour, la suite en musique.
لي سارحة في الغابة لا تمشي في الليل أبنتي عيونك صور كحناك تران شوف ظلام بفريقي ساكن في الغابة المنسية طوب حشر والويدان قصتها مخفية صرار في كل مكان حتى في المشية سحرية إن شاء الله شهدوا المكان سلبت عقلي وما بيا رموسها مخفية النظرة تحكي للغاز والضحكات شفي البلية حروف جمال فيه صرار صراره في دنيا مخفية من النظرة الأولى تولي حيران بين الحب والبلية ما هيش بنت المدينة
خيط الروح فيش بينها مرسوم يشوفوا غير اللي عشق فيها بلاها مرموش هتلمع سربي اللي خالقوا فيها قلبي بزينها تمتع كلام الحلوش عالي واتيها
Et tout de suite, on passe à l'actualité culturelle dans ce magazine. Mohamed Hamza Belmadani nous parle de la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran avec 63 films programmés et des rencontres créatives. Le festival met en lumière la richesse et la diversité du cinéma arabe.
Le commissaire du Festival international du film arabe d'Oran, Abdelkader Jeliou, a souligné l'importance des ateliers organisés en mars de la 13e édition du festival, affirmant qu'il représente un espace d'échange et de créativité pour les jeunes talents. Selon lui, ces rencontres permettent non seulement de partager des expériences, mais aussi de faire émerger des idées prometteuses.
Pour la première fois, il y a des ateliers sanctionnés par des idées qui peuvent être concrétisées en film.
Franchement, je suis très heureux.
La journée d'hier, lundi, a été marquée par un moment d'émotion et de solidarité. Des enfants cancéreux ont vécu une journée extraordinaire placée sous le signe du bonheur et de la magie du cinéma. Grâce à une organisation soignée et à un accueil empreint de chaleur humaine, ils ont été transférés du Royal Hotel vers la salle de cinéma à bord de véhicules de luxe comme de véritables stars. Sur place, ils ont eu l'occasion de rencontrer plusieurs acteurs qui les admirent et d'assister à la projection d'un film d'animation spécialement choisi pour eux. Les avis sur la réussite du festival se sont multipliés, notamment d'artistes comme Hichem Masbah.
J'arrive à cette énième édition. Cette année-là, je pense qu'ils ont atteint un niveau de compréhension ce que ça veut dire un festival. Qualité d'accueil, qualité de choix du film, qualité des représentants. Vraiment, Kader Djerio, Fassett Chibani, ils ont fait une sélection formidable, thématique. L'accueil est tellement naturel. On arrive maintenant, on a atteint le niveau.
Le chanteur international Cheb Mami, vedette du Rail, sera la star de la soirée de clôture du festival. L'acteur égyptien Yasser Jalal est arrivé également à Oran afin d'y être honoré lors de cette cérémonie. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, chaîne 3.
C'était l'actualité culturelle. On continue à vous accompagner en musique avec Yasmine Amari et Habib Ma'allem, Ahya Qalbi.
عرفت نخمم ما عرفت نهضر لو كان عارفة نخاسرك انت عشقنا يتظلم وقلبي ينضر ما نخليه يعيش حتى نوالفك حتى تقصر وضياع ويفوق بيني وبينك يطلبوا ماشي بعيال يا قلبي زماني خايل
نبقى فيه شدة هدمت فرحتي وبنيت جمرة في قلبي تقدي والله ما هي سهلة ما نخليه يعيش تاني ولا فكر تتخون وديا ويغفور بيني وبينك يطلبوا منك بعد عليا يا قلبي شبعت الحياة يا قلبي طريقك ماشي بعيا
Et on s'intéresse aux nouvelles technologies dans la rubrique TIC et médias. Aujourd'hui, Reda Menassel nous présente les MOF ou Metal Organic Frameworks, ces structures minuscules mais ultra performantes.
Bonjour, imaginez une éponge invisible, mille fois plus fine qu'un cheveu, mais capable d'observer des gaz, des métaux lourds ou des polluants atmosphériques. C'est l'image la plus simple pour vous décrire les matériaux mis au point par Suzumu Kitagawa, Richard Robson ou encore Omar Yari, les nouveaux lauréats du prix Nobel de chimie 2025. Ces structures s'appellent en fait des Metal Organic Framework ou les MOF pour les intimes. Elles sont composées de métaux et de molécules organiques formant une sorte de squelette poreux. Leur particularité, offrir une surface interne immense dans un volume minuscule. Une cuillère de MOF peut contenir l'équivalent d'un terrain de football de surface active. Leur potentiel est immense. On les utilise déjà pour stocker l'hydrogène, filtrer l'eau ou encore capturer le dioxyde de carbone. Des prototypes de climatiseurs écologiques exploitent même ces matériaux pour absorber l'humidité de l'air sans électricité. Cette découverte récompense une idée très très élégante, celle d'une chimie architecturale où la structure compte autant que la matière. Et dans un monde confronté aux défis climatiques, ces éponges moléculaires pourraient bien devenir les poumons technologiques de demain. À très vite.
C'était la rubrique TIC et médias. On continue en musique avec Amin Babylon. Très belle chanson, Oulili.
مبقى بيناتنا حنانة ما بقاش بيناتنا أمور وش بيه الحب راه نسانا مش كل قال زمان علينا يدور أنا وانتي كنا واحد وربي معانا وكنا فور ما درت في بالي عليك مبعد والليلي يا منى أمور ما بقى بيناتنا حنانة ما بقاش بيناتنا أمورة وش بيه الحب راه نسانا مش كل قال زمان علينا يدور أنا وانتي كنا واحد وربي معانا وكنا فور في بالي عليك مبعد والليلي يا منى أمور ما تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة حكاية ديناها قادر كيفاش نكملها وحدينا يانا ما تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة بديناها قادر كيفاش نكملها وحدينا يانا رحتي وكل شي راح معاك انا من دونك ياكلني الحوت من هنا حتى لا نلقاك كيما لاقى بيناتنا المكتوب يا ويلا زمان على يداك ربي عالم واش تخبي القلوب تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة حكاية ديناها قادر كيفاش نكملها وحدينا يانا شاديو عديو ما تقولي لي بسلامة حكاية بديناها قادر كيفاش نكملها وحدينا يانا مازال كاين الاسبوار وربي معانا مازال يطلع نهار وتصفى سمانا يا رواح يكملوا الاسبوار الدنيا قدامنا ننسى وقع اللي صار ونغيروا عدينا مبقى بيناتنا حنانة مبقاش بيناتنا أمورة وش بيه الحب راه نسانا شكون اللي قال زمان علينا يدور أنا وانتي كنا واحد وربي معانا وكنا فور في بالي عليك مبعد والليلي يا منى أمور تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة حكاية بديناها قادر كيفاش نكملها وحدينا يانا ما تقولي لي شاديو ما تقولي لي بسلامة حكاية بديناها قادر كيفاش نكملها وحدينا يانا
Et on continue de vous accompagner jusqu'à 19h en musique. Avec Cheb Mami. C'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera demain pour d'autres actualités. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui et notre réalisateur Ali Lavissi. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même station.
everything you wanted in me. You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away, I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. I'm just so sick about it.
I can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do without
you. Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie.
You said that you were moving on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
I can't believe it's ending this way.
Just about it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when it came.
Should've known better
that you were gonna make me cry. And now it's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie.
Let me paint this picture for you, baby. Yo. You spend your nights alone, and he never comes home. And every time you call him, all your kids are busy, told. I heard you found out that he's doing to you what you did to me. Ain't that the way it goes? When you cheat a girl, my heart beat a girl. So it goes without saying that you left me feeling hurt. Just a classic case, it's a scenario.